Voilà, petit à petit, nous approchons de la fin de notre émission d'aujourd'hui. Mais avant que nous puissions nous séparer, bon, permettez-nous quand même de vous proposer notre chronique, comme tous les jeudis, la chronique La Benevolentia, où aujourd'hui nous allons parler des conséquences de la rumeur au sein de la population. Notez que la population de Bandundu s'impatiente de connaître l'issue réelle du dossier d'invasion de Kayemba par les Angolais. C'est depuis le mois de mars qu'une information sur une éventuelle occupation de certains villages de ce coin a été annoncée par le média. Cette nouvelle avait trop agité cette population qui, en son temps, exigeait des justifications au gouvernement. Depuis lors, plusieurs missions d'enquête se sont rendues sur les lieux pour constater le fait. Mais la population qui s'est dit inquiète attend l'information fiable sur l'évolution du dossier. Nous allons parler aujourd'hui avec professeur Okumba, docteur en communication. C'est dans les cadres de notre chronique La Benevolentia. Et nous allons sans doute nous poser beaucoup de questions, à savoir si les rumeurs des Kayemba n'avaient pas été démontrées, quel scénario aurait pu être envisagé et pourquoi. Vous avez sûrement des questions que vous vous posez. N'hésitez pas à participer à cette émission en composant le 081 070 20 50. Et si vous voulez, appelez-nous directement au 081 890 63 94. On va d'abord suivre le reportage que nous a fait notre confrère Basile Bakoumbaye.
Tout est parti d'une information diffusée dans le média, tant national qu'international, d'après laquelle le militaire angolais occuperait une partie du territoire de Kayemba, précisément autour du village Chambwanda. L'information va jusqu'à préciser que le Congolais était chassé de ces territoires, occupés désormais par les Angolais. Voilà ce qui va énerver la population de Bandunduville, qui, comme tout autre Congolais, ne sont pas d'accord qu'une seule partie du territoire soit aliénée. Pour André Guipoy, membre de la société civile, ça ne peut pas se passer ainsi.
C'était vraiment pour nous un sentiment de regret, le fait d'apprendre qu'il y a un des territoires de notre province qui a été pris par les Angolais. Ça ne nous a pas plu, d'autant plus que nous ne voulons pas perdre un seul village de notre province. Nous voulons vraiment que notre province reste intacte. Et cette occupation nous a beaucoup déçus et ça nous a beaucoup traumatisés.
Sans identifier la source de départ de cette information et surtout par manque de moyens de vérification, la population s'ouvre ainsi à toutes les spéculations autour de cette nouvelle, ce qui va encore beaucoup l'agiter. Mais personne ne sait précisément d'où est partie la nouvelle. La plupart de personnes interrogées à ce propos affirment avoir suivi l'information par le média sans préciser lequel.
Nous avons suivi ça par la presse, c'est la presse même internationale qui en a parlé. Et nous avons suivi les radios périphériques, nous avons suivi vraiment la presse nationale. C'est plus par la presse que nous avons appris cela.
Je l'ai su par la radio, même les ont dit, eux-mêmes ont parlé à la radio, à la télévision, nous avons suivi. Ça nous fait mal vraiment d'avoir.
Oui, mais au jour d'aujourd'hui, quelle impression vous avez? Pensez-vous que c'est résolu, ça marche ou ça va comment?
Mais comme nous n'avons pas de suite, je ne sais pas où en sommes-nous avec le problème de Kayemba. Je ne sais pas.
En dépit de tout ceci, la tension n'a fait que monter dans la population qui d'emblée va accuser le gouvernement d'assister impuissant à cette situation. C'est ce que nous dit d'ailleurs Mme Hélène Mafi, habitante de la ville.
Ça m'a fait beaucoup de mal à comprendre que chaque année, les Angolais tuent les Congolais et que le gouvernement reste comme ça sans dire un mot, ou ça fait sans dire un mot, ou ça fait quelque chose. Et puis, les frontières que les Angolais ont occupées, c'est une partie de Bandundu, une partie de Kayemba. Mais comment la République démocratique du Congo... Ici chez nous, il y a des Angolais qui sont là, qui sont assis, qui font du mal, et on les chasse pas. Mais comment les Angolais peuvent-ils chasser les Congolais chaque fois? On les tue, on les menace vraiment, ça nous fait mal. Ceux qui gouvernent la République démocratique du Congo doivent prendre ce problème en charge, doivent s'en charger pour donner des solutions précises pour que nous aussi, les pays frontaliers, puissent aussi nous prendre, comme eux aussi. Nous gardons leurs frères ici chez nous, mais nous, chez eux, nous ne sommes pas en paix. Mais ça nous frappe beaucoup. C'est le gouvernement qui doit s'en charger.
Il reste pourtant vrai que plusieurs missions d'enquête se sont rendues sur ces lieux, mais contrairement à l'information de départ, le rapport de ces missions...
Comme eux aussi, nous gardons leurs frères ici chez nous, mais nous, chez eux, nous ne sommes pas en paix. Mais ça nous frappe beaucoup. C'est le gouvernement qui doit s'en charger.
Il reste pourtant vrai que plusieurs missions d'enquête se sont rendues sur ces lieux, mais contrairement à l'information de départ, le rapport de ces missions ne sont pas aussi fortement médiatisés. Toutefois, certaines personnes ont encore confiance aux démarches mises en place par le gouvernement.
Ça nous rassure d'autant plus que nous avons confiance à notre gouvernement qui est établi. Et tout ce qui est en train d'être mis là-bas comme mis en œuvre comme mission pour aller voir la vérité sur le terrain, pour vérifier les bornes ou tout ce qu'il y a comme vérification à faire, nous sommes en train de suivre ça de près et ça nous préoccupe beaucoup. Nous voulons voir vraiment une issue heureuse de cette affaire.
Aux dernières nouvelles, le calme est revenu dans ces coins, mais l'inquiétude persiste. Des Bandundouville, Basile Bakoumbane, Radio Okapi.
Merci, Basile Bakoumbane. Nous avons notre invité dans ce studio, professeur Okumba, docteur en communication. Bonjour. Alors, au travers de ce reportage, nous avons vite compris que la population est montée au créneau suite à une simple rumeur qui a circulé. Mais d'entrée de jeu, on aimerait un peu savoir si les rumeurs des Kayemba n'avaient pas été démontrées, quel scénario aurait pu être envisagé et pourquoi.
Mais je pense qu'on aurait à assister à deux choses. La première, c'est le développement des sentiments anti-gouvernementaux, parce que une partie de la population aurait estimé que le gouvernement ne fait pas son travail, donc ne défend pas l'intégrité du territoire, et probablement le développement des sentiments anti-gouvernementaux aurait débouché sur une révolte d'une partie de la population contre l'autorité établie. Heureusement qu'il a été démontré assez rapidement qu'il s'agit des rumeurs, et tout le confirme à travers ce reportage. On s'est rendu compte que les sources n'ont jamais été identifiées. On parlait de la presse, mais il s'agit de quel journal, quelle radio, quelle chaîne de télévision. Aucune source n'est identifiée. Et d'autre part, rien n'a été vérifié en ce qui concerne l'authenticité des faits. Il s'agit donc d'une rumeur qui aurait débouché sur une situation catastrophique.
Alors qu'est-ce que la rumeur, si on peut quand même faire une idée précise pour éclairer la lanterne de nos auditeurs?
Bon, une rumeur, c'est une fausse information en réalité. C'est une fausse information qui touche un vaste auditoire et qui circule de personne à personne sans que se manifeste une preuve sûre. Derrière la rumeur, il n'y a pas de preuve, mais c'est une fausse information qui circule sur un vaste public.
Alors, qui crée les rumeurs? Pour quelles raisons ces rumeurs sont-elles faites?
Bon, qui crée les rumeurs? En fait, dans la vie quotidienne, c'est n'importe qui peut créer une rumeur. Vous pouvez lancer une rumeur, moi je peux lancer une rumeur, en fait. Ça varie d'un contexte à l'autre. Dans la vie de tous les jours, c'est un peu tout le monde qui peut être à l'origine d'une rumeur. Mais dans des contextes de crise sociale, en général, on trouve derrière les rumeurs des leaders. Il y a des leaders qui créent, qui utilisent délibérément les rumeurs comme un moyen d'action psychologique.
Alors, d'aucuns aimeraient savoir, quand nous sommes dans des zones insécurisées ou dans des zones de conflits, qu'est-ce qui fait que les populations qui vivent dans ces zones acceptent facilement des rumeurs, malgré qu'elles vivent dans des conditions difficiles?
Bon, les populations qui vivent dans ces zones acceptent facilement les rumeurs pour une raison très simple. Je voudrais rappeler ce qu'un grand philosophe du nom d'Aristote avait dit. Aristote avait écrit quelque part que tout le monde désire naturellement savoir. C'est une phrase très importante. En fait, chaque être humain veut savoir, veut s'informer sur ce qui se passe autour de lui, ce qui se passe dans sa communauté. Et certains voudraient également être informés sur ce qui se passe dans le pays et pourquoi pas dans le monde. Et donc, il y a en chacun de nous un besoin naturel et social de l'information et du savoir. Et dans des conditions de peur, dans des conditions d'anxiété et de déstabilisation psychologique, les gens acceptent facilement n'importe quelle information pour satisfaire ce besoin naturel et social d'information. J'ajoute à cela que dans les zones de conflit, il y a un déficit d'information. dans ces zones, la presse libre ne circule pas. Les conditions de vie sont telles que les gens n'ont pas la possibilité de se procurer les supports d'information. Et donc, il y a une situation de vide d'information, une situation de sous-information qui est vite comblée par la rumeur. Et si vous mettez côte à côte ce déficit d'information et le besoin naturel d'information, on comprend facilement pourquoi dans ces conditions les gens acceptent facilement les rumeurs dans ces genres de situations.
Alors comment et pourquoi la rumeur impacte-t-elle sur l'évolution de la violence des groupes?
Alors, comment est-ce que la rumeur produit un impact sur la violence? C'est simplement parce que la rumeur soulève l'hostilité et les dissensions dans la plupart des groupes en situation de crise. Donc, elle crée l'hostilité, elle favorise l'hostilité, elle renforce les dissensions. C'est de cette manière que la rumeur a agi sur la violence de groupe. Et pourquoi la rumeur, en fait, provoque un impact sur la violence de groupe? C'est simplement parce que la rumeur, en fait, nourrit la violence de groupe. Elle lui apporte des éléments, des justifications. Elle lui apporte, en quelque sorte, des arguments. Voilà de quelle manière la rumeur produit un impact sur la violence de groupe.
Et les rumeurs peuvent-elles affecter psychologiquement la population?
Les rumeurs affectent toujours la population, mais là, je dois dire que les rumeurs n'affectent pas tous les individus de la même façon. Les rumeurs affectent différemment les victimes et les bourreaux, parce que dans des situations de crise sociale, dans des situations de conflit des groupes, il faut le rappeler, il y a d'un côté les victimes et de l'autre côté les bourreaux, mais qu'il faut mettre ensemble, qu'il faut réconcilier. Et en ce qui concerne les victimes, les rumeurs alimente la peur essentiellement. Les rumeurs jettent l'alarme. Et cette peur peut soit les vulnérabiliser davantage, parce que la peur peut provoquer une perte de confiance en soi. Donc la rumeur peut déboucher sur le renforcement de la vulnérabilisation des victimes, mais la rumeur peut pousser aussi à une violence préventive qui n'est pas fondée. La rumeur provoque la peur et la peur amène les gens à se défendre, à engager des actions de violence et peut-être des actions de violence qui ne sont pas fondées. Mais du côté des bourreaux, les rumeurs peuvent répandre des faux espoirs. Faux espoirs, par exemple, d'exclure définitivement et les groupes considérés comme ennemis. Faux espoirs de pouvoir les écarter définitivement des sphères du pouvoir. Donc, on voit que la rumeur n'agit pas de la même façon sur les victimes et sur les bourreaux.
Oui, ça me rappelle, professeur, ça c'est juste une parenthèse que j'ouvre rapidement, que je vais aussi fermer rapidement, l'histoire de Katakata à Kinshasa, phénomène Katakata qui est apparu à une certaine époque. On a identifié un tueur à un Katakata, ben c'était un tueur imaginaire et ça fait quand même des effets. Hein. Ça produit des effets.
Bien sûr,
violence.
C'est ce que je dis. Cette rumeur a créé de la panique dans la ville de Kinshasa, alors qu'on n'a jamais identifié cette personne-là. On n'a jamais vu ces groupes-là. En fait, il n'y a jamais eu des preuves. Mais la diffusion de cette rumeur a provoqué une très très grande panique dans la ville. Et finalement, les gens ont commencé à se procurer des machettes, à acheter des machettes pour les garder à la maison au cas où. Voilà de quelle manière la peur peut déboucher sur une violence préventive qui n'est même pas fondée.
Donc, les gens ont gardé des machettes et finalement il n'y a pas eu ce Katakata.
Et le Katakata, on ne l'a jamais vu, les machettes ont été achetées et c'est extrêmement dangereux. Hein. Voilà de quelle manière la rumeur peut amener les gens à s'armer et peut-être à utiliser ces armes pour des actions de violence qui ne sont pas fondées.
Alors comment peut-on différencier une information exacte d'une rumeur? Parce que c'est là, Katakata, c'était une fausse information, mais qui était traduite en Katakata.
cata, et puis finalement, ça n'a pas eu d'écho.
Et il existe une grande différence entre une information exacte et une rumeur. D'abord, une information exacte, c'est une information qui est vérifiable. C'est-à-dire que derrière une information exacte, il y a un fait réel, il y a un événement qui a eu lieu, et on peut apporter la preuve que cet événement a eu lieu exactement. Dans le cas de la rumeur, la vérification est impossible parce qu'il n'y a rien derrière la rumeur. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est qu'une information exacte a toujours des sources connues et crédibles. Et ces sources, on les connaît, elles existent. On peut s'adresser à ces sources dans un processus de vérification de ce qui s'est passé. Dans le cas de la rumeur, reprenons l'exemple de Kayemba. Chaque fois, on nous dit, bon, on a entendu ceci à la radio, on a entendu dans la presse internationale, mais ces sources ne sont pas identifiables. Donc, en général, les rumeurs n'ont pas de sources identifiables. C'est toujours on dit. À un moment donné, il y a eu une maman qui a dit, on dit, la presse a dit, mais quelle presse? Quel journal, quelle station de radio? Voilà une grande différence. Donc, il faut faire attention. Une information exacte a des sources connues, qui ont des adresses, qui existent. Les informations qu'elles diffusent, on peut vérifier les faits qui sont derrière ces informations, mais dans le cas de la rumeur, les sources ne sont pas connues. Et toutes les recherches qui ont été menées pour pister les rumeurs n'ont débouché sur rien.
Professeur, que doit-on faire pour contredire et résister aux rumeurs?
Bon, pour contredire et résister aux rumeurs, il y a beaucoup de choses. La première chose qu'il faut faire, c'est que il faut apprendre à la population à s'informer à plusieurs sources. Il faut que les gens essayent de confronter les informations de plusieurs sources connues, des sources qui sont crédibles. Deuxièmement, il faut que les gens aient l'habitude de discuter de ce qu'ils entendent à la radio, discuter avec les amis, avec les leaders, avec des référents sociaux. Voilà de quelle manière on
Est-ce qu'on peut parler de la liberté d'expression à cette époque-là, à ce niveau-là?
Bien entendu, vous avez la responsabilité des médias dans la lutte contre la rumeur, mais vous avez également la responsabilité des institutions gouvernementales. En ce qui concerne les médias, la responsabilité sociale et éthique exige de présenter les faits tels qu'ils se sont passés. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un effort. Je parle d'un effort d'objectivité de la part des journalistes. Donc, il faut éviter de déformer les faits. Deuxièmement, les médias doivent s'ouvrir à tous les courants d'opinion et à tous les partis politiques, y compris les partis politiques de l'opposition, pour éviter les rumeurs. Et ensuite, j'estime que les médias doivent lutter contre la pratique d'embargo qui a existé à un certain moment sous la Deuxième République. Qu'est-ce qu'on appelle la pratique d'embargo?
Alors, on va terminer par là, mais suivons d'abord la conclusion.
Pendant des violences des groupes ou lorsque les populations traversent des temps difficiles comme l'insécurité, l'instabilité politique ou les inégalités sociales, certains leaders profitent de nos sentiments d'angoisse et de vulnérabilité pour nous manipuler en vue d'obtenir notre soutien. Par le biais de la rumeur, ils créent un climat d'incertitude et de peur. Ils font même circuler des rumeurs d'infiltration, d'attaque de l'ennemi idéologique afin de nous encourager à user de la violence à l'encontre de leurs opposants idéologiques ou politiques. Pour cela, ils exploitent le déficit de l'information pour faire circuler des rumeurs. Et comme c'est un de nos besoins fondamentaux de nous informer et de savoir ce qui se passe autour de nous, alors notre anxiété et notre peur font qu'il nous est facile de croire à n'importe quelle information que l'on peut trouver, même si cette information n'est pas vérifiable, même si elle est fausse. Le silence des autorités politiques ou militaires sur une rumeur donne l'occasion à leurs auteurs de faire croire aux gens qu'ils ont raison. Lorsqu'il y a une rumeur, il est important de demander à toutes les parties de présenter la vraie version des faits. Quant à nous, citoyens, nous devons chercher et vérifier nos informations auprès des autorités civiles, militaires, l'opposition ou les médias. Si tous disent la même chose, alors on peut penser que l'information est vraie. Si nous gardons silence face aux rumeurs, alors elles deviennent plus fortes. Par conséquent, il n'est pas bon de laisser la rumeur nous informer. C'est le rôle des médias responsables et des autorités de nous informer. Et c'est notre rôle de vérifier et de critiquer cette information. Nous ne devons retenir que la vérité, car avec un mensonge, on va loin, mais sans espoir de retour.
Voilà, professeur Okumba, un mot de la fin.
Bon, le mot de la fin, c'est qu'il faudrait attirer l'attention sur la responsabilité des institutions gouvernementales dans la lutte contre les rumeurs. Il faudrait que les institutions gouvernementales puissent faciliter aux journalistes l'accès à l'information. C'est fondamental, parce que si les journalistes n'accèdent pas à l'information, il n'y a pas d'information. Et quand il y a vide d'information, il y a rumeur. En fait, le vide d'information n'existe pas. Là où il y a un vide d'information, ce vide est vite comblé par la rumeur. Et deuxièmement, il a été dit que les institutions doivent présenter à chaque fois la vraie version des faits. Elles ne doivent pas rester silencieuses devant la rumeur. Et troisième élément, il faut que les institutions puissent favoriser le fonctionnement d'un système médiatique pluraliste et promouvoir la liberté de la presse.
Professeur Okumba, nous rappelons que vous êtes docteur en communication à l'IFASIC. Merci d'avoir été de nôtre pour éclairer la lanterne de nos auditeurs dans cette chronique La Bénévolette. On vous retrouve dans deux semaines. Merci et à la prochaine.
Je vous remercie également.
Nicole, on met un terme à cette émission d'aujourd'hui.
Tout à fait, Gérard. Allez, nous remercions tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont appelés pour participer à cette émission à la mise en onde. Il y avait Guy Manzangou et Eddy Merkis à la réalisation, Jody Kachama. Cette émission a été coordonnée par Nathalie Mouteba. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure, c'est-à-dire de 9h à 12h, heure de Kinshasa. Dans un instant, vous aurez droit au point de l'actualité. Puis juste après, rendez-vous avec Okapi Mama. À la présentation, vous retrouverez Françoise Mokoko. Merci encore et à demain. Thank you.